Merci d'abord au professeur Remer de m'avoir invité, mais moins merci pour me faire parler le premier. Parce que le résultat a été que j'ai immédiatement changé naturellement le sujet de ma communication. Vous voyez ce que c'était, le sentiment de la honte. Je comptais apporter un petit peu de profondeur parmi toute cette mécanique tabouesque. Et puis après, quand je me suis relu, j'ai vu que j'avais fait un catalogue d'horreurs. Et je me suis dit, je ne vais pas, en parlant le premier, faire une sorte de confession au nom des Amorites ou des Mésopotamiens. Donc j'ai jeté mon exposé en le gardant pour un autre colloque où on fera parler plus tard, en dernier lieu par exemple. Et j'ai décidé à ce moment-là de prendre les choses d'une façon un peu plus théorique. Alors ça sera plus ennuyeux, mais après tout ça fera plus scientifique. Et en tout cas, je vous montrerai moins la mauvaise conscience que l'on peut avoir d'être assyriologue à l'heure actuelle. Bon, alors, attendez, je mets les choses. Voilà. Alors, Thomas Remer vous l'a déjà dit, le terme de tabou est un terme qui nous est étranger. C'est un terme qui vient d'ailleurs. Alors, j'espère que... Voilà. J'avais gardé le sentiment de la honte parce que c'était déjà fait, mais naturellement ensuite ça a changé. Alors, j'ai regardé un petit peu ce terme auquel on n'est pas tellement habitué, parce que c'est pas un de ces bons termes qui vient du grec. Rassurez-vous, je terminerai par du grec. Ce thème qui vient de civilisations que je ne contrôle pas du tout. Alors, j'ai regardé et j'ai vu que tabou, ça venait de ta, qui signifiait marqué, plus une particule intensive. Ma science, je ne l'assume absolument pas. J'espère que c'est vrai, n'est-ce pas? Mais c'est un concept, naturellement, qui, comme Thomas Remer vous l'a dit, à l'heure actuelle, est passé dans le langage courant, mais qui n'est absolument pas quelque chose qui a été fait à partir des données mésopotamiennes ou orientales. Ce que j'ai constaté d'autre part, c'est que ce terme de tabou faisait couple avec un autre qui s'appelle Noah, et qui, j'espère que ma prononciation est bonne, n'est-ce pas, et qui montre au contraire qu'il y a un contact ou un usage libre dans la société. Et c'est ça qui est extrêmement important, qui m'a fait réfléchir quand j'ai vu les exposés sur tabou, parce que je m'étais dit, je vais voir ce que c'est qu'un tabou ailleurs, et puis je vais coller cette information sur les données mésopotamiennes. J'ai vu que ça ne marchait pas très bien, parce que ce qui nous manque en réalité chez nous, c'est la notion de Noah. C'est-à-dire que c'est assez facile de trouver la notion d'interdit, mais qu'est-ce qui est licite de faire? Quel est le catalogue des choses que l'on peut arriver à faire? Le terme qui est complémentaire de tabou, nous ne l'avons pas. Et en réalité, et c'est ça qu'il faut savoir dès maintenant, c'est que parler de tabou dans nos civilisations, c'est en réalité parler des interdits, c'est-à-dire d'une question relativement fragmentaire d'un ensemble qui est beaucoup plus large. Alors, mon exposé, je vais le construire en deux thèmes. Le premier, c'est de voir la véritable notion de tabou sous les aspects de péché involontaire et inconscience du péché en même temps. C'est ça qui est extrêmement important en Mésopotamie. Et dans une deuxième partie, je vais essayer de montrer comment cela peut être intériorisé et comment on peut passer d'un péché involontaire à un péché conscient, en réalité. Alors, il y a en Mésopotamie un terme qui convient parfaitement à la notion de tabou, interdit. Vous voyez, chaque fois, je vais vous reprendre. Comprenez que je vais quand même un petit peu spécifier l'approche. C'est le terme de ikibu. Nous en avons un et un qui est extrêmement net. Et on considère que ce ikibu, et c'est ça qui est extrêmement important, ce n'est pas un terme sémitique, c'est un terme qui vient du sumérien. qui a été empruntée à la religion cimérienne. Et tout particulièrement, pour arriver à Ikibu, il faut partir de Mgib, c'est-à-dire qu'il faut correspondre, et on ne part pas du sumérien proprement dit, mais d'un dialecte du sumérien, c'est ce qu'on appelle le Emessal. Alors ça, c'est une question extrêmement, extrêmement difficile qui n'est toujours pas résolue. Ça signifierait en sumérien la langue des femmes. Mais en réalité, parce que la langue, les femmes ne sont pas censées parler exactement la même langue que les hommes, c'est quelque chose qui est très courant dans certaines civilisations qui ne sont pas européennes. Au point de vue de l'articulation, de la grammaire, du vocabulaire et de tout le reste, pas uniquement au niveau simplement des façons de dire, comme nous pouvons avoir en français un parler mâle et un parler féminin. Et ce qui est important, c'est que cette langue, qui n'est pas la langue officielle, est la langue en réalité de la lyrique. Et la lyrique, c'est ce qui permet de composer les psaumes pénitentiels. Et la notion de interdit de Mgib se trouve tout particulièrement dans un genre de littérature très précis qui est la lyrique qui est chantée d'une certaine façon. Alors que la lyrique soit chantée dans une langue particulière, la littérature grecque est là pour vous expliquer que un chœur n'est pas fait en grec classique, mais il est fait en dorien, par exemple. Donc ça montre bien que la littérature officielle ne s'intéresse pas à la notion d'interdit, mais que dans les psaumes dans lesquels on va chanter les malheurs qui l'on arrive et supplier la divinité de prendre part à ceux qui peuvent vous réconforter, eh bien c'est là que la notion de Mkib arrive et de Ekibou. Alors, le terme classique qui correspond à Mgib, c'est Nigdegib, et Nigdegig, c'est extrêmement clair, ça signifie la chose mauvaise. Et lorsque vous voyez des lexiques, on vous dit Ikibou, ça signifie deux choses, soit Murtsum, c'est-à-dire la maladie, ou bien Marushtum, qui est moins grave, qui signifie la malchance, mais que je préfère traduire par poisse. C'est-à-dire ce qui fait que réellement ça ne marche pas. Si vous avez fait quelque chose de ikiboum, eh bien, soit la maladie s'accroche à vous, soit eh bien, vous ne réussissez pas dans ce que vous avez à faire. Et vous avez là immédiatement cette notion qui est extrêmement importante d'un acte dont la conséquence est néfaste. Et c'est encore plus net quand vous voyez comment les langues périphériques à la Mésopotamie réagissent à la notion de ikibou. Ikibou, vous ai dit, en hittite, on vous le traduit par nata'ara, ça veut dire ce n'est pas permis. Et naturellement, avec toutes les conséquences que cela peut arriver. Alors vous voyez tout de suite comment en Mésopotamie on voit les choses. D'abord, premièrement, cela vient d'un domaine particulier, c'est la religiosité privée qui s'adresse à la divinité, qui fait que le terme sumérien passe dans un dialecte particulier qui est Mgib, et d'autre part, en acadien, les équivalents que l'on peut vous donner tout de suite, c'est maladie, malchance et ou choses illicites en ce qui concerne le hittite. Alors voilà un exemple de Ikibou, tout de suite. Je suis désolé, je suis obligé de prendre des exemples en acadien, mais vous avez des traductions qui vous permettent d'apprécier. Araba laïkal, nigig ninlil, nigig imar. Je vous ai mis le sumérien en majuscule et l'acadien en italique. Il ne doit pas manger d'araba. Alors, arabou, c'est une sorte de rat qui, paraît-il, était particulièrement agréable à manger, mais qui était illicite parce que c'est. Il y avait un tabou alimentaire qui portait sur lui, qui était imposé par la grande déesse Ninlil, c'est-à-dire la reine des dieux. Et le texte continue en disant, sinon il éprouvera de la poisse. Il ne réussira plus rien de ce qu'il peut réussir. Alors vous voyez dans le texte qui vous est proposé qu'il y a deux fois le même idéogramme, c'est-à-dire Nigigig, mais que le premier signifie le terme de tabou, Et le deuxième vous signifie le terme de malchance. Vous me direz, comment est-ce que vous savez ça? Eh bien, c'est extrêmement simple. C'est parce que nous avons plusieurs manuscrits et il y en a qui vous donnent des gloses de lecture. Un idéogramme, naturellement, ne se lit pas en sumérien, mais en acadien. Et on vous dit, pour le premier, lisez-le tabou, et pour le deuxième, lisez-le malchance. Donc, on est sûr que la traduction, votre traduction, c'est Araba laïkal, Ikib ninlil, Marushta imar. Voilà le véritable texte. Et en sumérien, alors en sumérien, c'est donc normal que vous le trouviez écrit en émessal. Le premier terme que je vous donne est un terme émessal. Mgiga, donc il faut le dire Mgibba, Dimermu Munke, avec la traduction acadienne, j'ai mangé le tabou de mon Dieu. J'ai mangé la chose mauvaise qui nous a dit par mon Dieu. Je vous ai mis que vous vous y retrouviez la traduction en bon sumérien à côté. Nigiga dingirmu munken. Voilà. Si vous pour nous trouver vous voulez parler en sumérien chic, ben vous l'avez en ligne numéro 2, non pas en ligne numéro 1. Alors l'ikibou, vous voyez très bien comment on peut le cataloguer. C'est un tabou alimentaire. Et il y a naturellement une très longue litanie de tabous alimentaires dont mon jeune collègue Lionel Marty vous fera le catalogue tout à l'heure. On ne peut pas tout manger. Chaque dieu interdit de manger quelque chose. Il n'y a pas de tabou universel, mais il y a des tabous particuliers. En même temps, on ne vous empêche pas de manger la même chose à tous les moments. C'est-à-dire qu'il y a des tabous momentanés. Vous ne devez pas manger telle chose à tel moment parce que c'est interdit par tel dieu, etc. Et c'est une casuistique extraordinairement compliquée qui dépasse mon exposé et qui nourrira le sien, si j'ose dire. Il y a un deuxième terme pour signifier le tabou. C'est l'anzilou. Alors, anzilou, personne n'en a proposé une interprétation. Ce n'est pas du sumérien, si on en est sûr. Même en recourant au dialecte émessal, à d'autres dialectes sumériens, on n'arrive pas à l'expliquer. En sémitique, on arrive toujours à trouver quelque chose, mais rien n'est contraignant. Alors, on se limite avec le terme de anzilou, que l'on constate comme cela, et c'est caractérisé tout particulièrement comme étant un tabou de contact. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que le terme est employé tout particulièrement avec la racine de kabassoum qui signifie « fouler aux pieds, marcher sur ». Il ne faut pas marcher sur un anzilou. Donc, on voit bien que c'est un endroit où il ne faut pas pénétrer. C'est ce qu'on appelle un tabou de contact. Il ne faut pas y toucher. Et le seul exemple que l'on ait de façon concrète, c'est on vous dit que donne comme exemple comparatif pour l'anzilou la maison de la grande prêtresse. Alors, voilà un domaine réservé dans lequel on ne doit pas rentrer. Mais on ne dit pas que le harem du roi, par exemple, est un anzilou. Il y a des domaines sur lesquels, dans lesquels il ne faut pas pénétrer, mais on se garde bien de vous en donner le contexte. Donc, alors que le harem, théoriquement, c'est un endroit où on ne doit pas entrer. Ce qui est tout à fait caractéristique, c'est que tous ces termes apparaissent relativement tardivement. Ikibou et Anzilou. Si vous regardez Marie, par exemple, vous n'avez pas des termes de ce genre. C'est absolument inconnu. Parmi tous l'énorme masse de textes que l'on a retrouvé là-bas, Ikibou et Anzilou ne sont pas du tout mentionnés. Le terme Ikibou n'apparaît qu'à l'époque moyenne, et c'est un terme des psaumes pénitentiels. Anzilou est un terme plus ancien, mais il est littéraire. C'est un niveau de langue qui n'est pas utilisé dans les lettres, dans le langage courant. Alors, vous me direz, à Marie, comment ça se présente lorsque l'on veut dire un tabou? Eh bien, à l'heure actuelle, les savants se sont persuadés qu'il en existait un qui était Asakou. Et si vous regardez le CAD, on vous dit quelque chose qui est mis de côté pour le dieu ou pour le roi, et on ajoute un tabou. Ça, c'est ce que j'appelle de la facilité linguistique. Parce que quand vous regardez les textes de Marie, et je pense en avoir un petit peu l'expérience, je considère que Asakou ne signifie pas du tout tabou. Ce n'est pas bon du tout. Qu'est-ce que c'est qu'un asaku amari? Eh bien, un asaku, c'est un bien réservé de la divinité. On le met de côté. C'est un bien qui est mis de côté. Alors, l'idéogramme qui note le terme de asaku, il est extrêmement clair. Ça veut dire, c'est ku plus an, c'est-à-dire la notion de pureté, plus la notion de Dieu, c'est-à-dire quelque chose qui est pur pour le Dieu. Mais quand vous regardez asakum, révérence gardée à la grande dictionnaire, à la grande grammaire de von Zeden qui porte ce titre merveilleux de gag, c'est de l'allemand qui est résumé par ses initiales, mais ça fait drôle même en français et même en anglais, n'est-ce pas? Asakum a de grandes chances d'être une formation amorite sur la racine de SKK qui signifie ne pas être accessible. C'est un bien réservé. Et sur SKK, qui signifie boucher, vous avez toute une série de termes qui sont extrêmement explicites. L'asakum, c'est la cagnotte du dieu. Elle est spécifiée. Ça n'empêche pas le roi d'y avoir accès quand il en a besoin. Tout particulièrement, si vous voulez faire un présent au dieu, eh bien, le moyen le plus simple pour le roi, c'est d'aller se servir sur la cagnotte du dieu. On lui prend dans ses réserves de quoi faire quelque chose qui lui fera plaisir. Donc, c'est quelque chose qui est réservé, mais qui n'est pas du tout inaccessible à l'action humaine. Sinon, eh bien, vous avez un deuxième emploi de asakum qui est employé dans le serment. On a bu l'asakum du dieu et mon excellent collègue Charpin a montré très bien que c'était un emploi tout à fait particulier et qui ne représentait pas du tout la notion de tabou. C'était une sorte d'auto-malédiction que l'on portait sur soi. C'est quelque chose qui est tout à fait différent. Alors, ce que je voudrais signaler tout particulièrement à l'attention des biblistes, c'est qu'aucun de ces trois termes que je viens de voir, ikiboum, anziloub ou asakum, n'apparaît dans un texte juridique. C'est-à-dire que vous n'avez pas, dans un code de loi, texte juridique, ce n'est pas un texte juridique, la pratique, c'est un texte de loi normatif. Dans les codes d'Hammurabi, sauf erreur de ma part, vous ne trouvez pas aucun de ces termes-là. Et c'est tout à fait normal, parce que c'est une affaire de morale privée qui ne concerne nullement le groupe. Et à mon avis, c'est pour cela que vous ne l'avez pas à Marie. Comme le groupe n'est pas mentionné, n'est pas concerné par cette notion de tabou, eh bien, on ne s'en sert pas. Alors, deuxième conséquence, c'est que on peut tout à fait enfreindre un tabou sans le savoir. Et vous me direz, alors on n'est pas responsable. Ça, c'est une idée moderne. Si vous avez enfreint un tabou sans le savoir, la maladie ou la malchance, de toute façon, s'abat sur vous. Et ça, c'est une conséquence que l'on ne peut pas éviter. Voilà deux très grandes différences, à mon avis, entre la Mésopotamie et le monde biblique. Alors, peut-être que les biblistes ont changé la façon de voir les choses, mais quand j'étudiais un petit peu les choses bibliques, c'était quelque chose qui tombait sous le sens. Alors, où apparaissent les tabous? Eh bien, les tabous, ils apparaissent tout particulièrement dans ce que l'on appelle les confessions-excuses. Parce que quand on voit qu'on est malade et qu'on n'a pas de chance, mais qu'on n'a pas conscience d'avoir fait quelque chose de mal, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va devant la divinité et on s'accuse de tous les péchés, comme on dit en français, d'Israël. On s'accuse de tout ce qu'on a pu faire. Alors on vous dit, ah ben j'ai dû faire un ikibou, j'ai fait un anzilou, c'est-à-dire que j'ai dû manger quelque chose qu'il ne fallait pas, j'ai dû marcher où il ne fallait pas. Après on dit arnou, shertou, gilatou, rititou. Alors là ce sont quatre péchés particuliers. Ça fait partie de la casuistique mésopotamienne, je ne vais pas entrer dedans, mais un arnou n'est pas un shertou, n'est pas un gilatou, n'est pas un rititou, ce sont des péchés conscients. Là, vous pouvez savoir ce que vous avez fait réellement. Et le tourou, c'est le boomerang qui vous revient. C'est pas quand vous avez fait quelque chose, la divinité vous envoie un malheur, une maladie, la malchance, etc. Alors, donc le tourou, c'est quelque chose de négatif parce que ça vous retombe dessus. Alors, le A, Ikibu Benzilu, c'est d'avoir absorbé ou touché involontairement quelque chose. Et ça se termine toujours par cette formule qui est extrêmement importante. Moudou la mouda likalim, celui qui est informé doit. Alors, Moudou, c'est celui qui est informé. Likalim doit ouvrir les yeux, faire voir, c'est-à-dire ouvrir les yeux. La mouda à celui qui ne sait pas. C'est-à-dire qu'il faut que vous alliez trouver quelqu'un qui vous explique ce que vous avez fait. Et c'est très important, vous n'avez pas la conscience claire si quelqu'un ne vous dit pas ce que vous avez fait. C'est-à-dire que, d'après un texte mésopotamien, la morale peut être un fait de nature, parce que naturellement il y a des péchés, mais c'est aussi un fait d'éducation. Il faut qu'on vous apprenne quelle sorte de nourriture vous devez avoir et quand vous devez l'avoir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vous apprenne tous les maux dont vous pouvez ne pas avoir confiance. Et c'est ça qui est extrêmement important. Le mal est un mal d'éducation. Alors, comment peut-on passer du tabou à la morale? Eh bien, il y a une évolution sémantique qui est extrêmement nette. Parce que, avec le temps, l'ikibu et l'anzilu ont conflué ensemble. Le tabou de manger quelque chose, le tabou de contact, on signifie la même chose. Et au premier millénaire, ces deux termes, quand ils sont employés, c'est très différent du deuxième millénaire. Ça signifie quelque chose, faire quelque chose que l'on considère comme contraire à la déontologie, à sa propre déontologie. C'est-à-dire que faire quelque chose qu'on semble ne pas devoir faire. Et je vais vous donner des exemples pour vous montrer la sécularisation de ces termes qui passent de la morale privée à quelque chose de complètement intériorisé. Les rois, par exemple, parlent d'eux-mêmes en disant « Sha'ikipshu amat tashkirti » dont le tabou personnel, c'est le fait de mentir. Alors, la traduction, c'est « un roi est absolument incapable de mentir ». Voilà ce que c'est qu'un ikibu. Un roi ne doit dire que la vérité. Un deuxième, « je rendis absolument impossible de sortir par la grande porte de sa ville ». Le mot à mot, c'est « atse abouli », le fait de sortir, « atse abouli alichou », le fait de sortir par la grande porte de sa ville, « utira », j'en ai fait, « ikibu »,« chou », son impossibilité, son tabou. Alors, là encore, il n'y a pas de péché, mais simplement, c'est la chose qui est absolument impossible de faire, c'est de quitter la ville dans laquelle il est bloqué par les armées assyriennes. Voilà un autre exemple. Un troisième exemple, c'est dans les lettres privées, Ikibi Shaili, c'est un ikibu des dieux, alors je vous ai traduit par « c'est impardonnable », Minamma Tebukunu Ulashme, pourquoi est-ce que je n'ai pas de nouvelles de vous? Alors, ça, c'est, il n'y a pas d'excuse. N'allez pas chercher midi à 14h, n'est-ce pas? C'est, vous auriez dû m'écrire, vous n'avez pas fait, c'est une faute que vous avez faite. Là encore, c'est du langage mondain. Alors, une grande question qui se pose à l'heure actuelle, c'est, doit-on penser qu'à l'époque ancienne, il n'y a pas de tabou et qu'il n'y a que des fautes? Et que le tabou, ça vient après tout d'un genre, c'est un terme qui a été emprunté à une civilisation à côté, donc les Sémites sont des gens beaucoup plus libres que les Sumériens qui étaient des gens plus coincés, au moins au point de vue personnel, et qu'ils ne reconnaissaient que le fait de faire des fautes. Quand on regarde les choses de façon très précise, en réalité, il y a des domaines qui ne sont pas exprimés, mais dans lesquels l'action est limitée. Un domaine réservé, par exemple, c'est le domestique royal. Quand vous avez un mari, un homme qui s'appelle Zimrilim, eh bien, il est le seul à porter son nom. Quand vous avez un homme qui s'appelle Yardunlim, le roi de Marie, son père, il est le seul à porter son nom. Et si vous avez des noms qui se répètent comme Amourabi, ce sont des noms, ce qu'on appelle des noms de fonction, ne prend le titre d'Amourabi, c'est-à-dire le grand-père est grand, qu'une catégorie très particulière de la société. Et au premier millénaire, ça va encore plus loin. Là, c'est Dominique Charpin m'a rappelé cette histoire que je cite sous son autorité. Il y a un brave Assyrien qui appelle son fils Assurbanipal et on le met à mort en lui disant « Mais comment tu appelles ton fils du nom du roi ?» Alors que chez nous, ça serait tout à fait le contraire, puisque par admiration pour l'impératrice Eugénie et sa beauté, dès qu'une petite fille naissait au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, on l'appelait Eugénie. J'arrêterai au XIXe siècle ce genre d'allusion. D'autre part, il y a des lieux qui sont tabous. C'est-à-dire qu'on prend des pierres pour faire des bétiles et on ne les prend pas n'importe où. On vous dit, attention, le lieu est dan, c'est-à-dire il est fort. Ne va pas chercher la pierre là-bas parce qu'il y a des conséquences. Bon. Il y a toute une série de choses de ce genre qui montrent qu'il y a des limites à l'action. Et d'autre part, tout particulièrement, vous avez la prophétie qui apparaît pour vous indiquer que ce qui ne plaît pas aux dieux, ou bien... tout particulièrement ce qui est prospectif, la richertum, c'est-à-dire ce que le Dieu désire et dont vous n'êtes pas informé et que le Dieu se charge de vous faire savoir. Alors, tout particulièrement, à l'époque ancienne, vous avez les termes qui sont l'atout, l'anatout, c'est-à-dire ce qui est possible et ce qui est impossible. L'atout, c'est ce qui est possible de faire, l'anatout, c'est ce qui n'est pas possible de faire. Et c'est là que l'on voit les notions de convenance. Et quand vous regardez la traduction sumérienne, eh bien, c'est extrêmement simple. « Ulnatu », ce n'est pas possible. C'est traduit par « nubzu », c'est-à-dire en sumérien, « c'est inouï cette affaire, n'est-ce pas ? » C'est-à-dire, on ne l'a jamais vu. Et tout particulièrement, c'est une expression qui se trouve dans les lettres d'Engueulade. Quand vous écrivez à quelqu'un que vous n'êtes pas content, vous lui écrivez « natuma chatepouchou ». Ah, c'est du joli ce que tu as fait. Bon, théoriquement, est-ce possible ce que tu m'as fait ? Et il y a une variante très importante qui est Damkama Chatepushu. C'est du joli, c'est beau ce que tu as fait, n'est-ce pas ? Et on voit tout à fait que Natu, qui est l'impossibilité de faire l'action, permute avec Damakum. Et Damakum, c'est montrer sa solidarité avec le groupe. Ou bien montrer son amitié avec une personne. C'est-à-dire que le convenable, c'est ce qui montre la solidarité. Le non-convenable, c'est ce qui permet de s'individualiser. Alors, il y a un grand problème pour l'étymologie du terme, c'est que natu ressemble comme deux gouttes d'eau avec le verbe être convenable, avec le verbe qui signifie frapper. Et il y a un problème considérable parce que les étymologies hébraïques qui sont données pour le terme sémitique acadien ne conviennent absolument pas. Construire ou bien étendre, etc., ça ne vient pas du tout. Alors, ça, je le passe pour venir au deuxième terme qui signifie « bashtoum », la honte, dont vous a parlé tout à l'heure de M. Romer en commençant son exposé. Il y a un grand problème, c'est que en hébreu, l'hébreu correspond lettre pour lettre à l'acadien, et c'est exactement deux sens entièrement opposés. C'est-à-dire que bosh en hébreu signifie avoir honte, être confus. Alors, c'est moi qui serais confus si vous avez changé de terme, mais ça, je le saurai tout à l'heure. Comme les biblistes passent leur temps à changer les choses, je vais peut-être l'apprendre à ma grande confusion. C'est vrai ? Non ? Bon, pour l'instant, non. Boshet signifie. En tout cas, j'ai regardé les dictionnaires officiels. Ça signifie la honte, et c'est traduit en grec par aiskune. Alors, le grec, je le contrôle quand même bien, et aiskune, ce n'est jamais positif en grec. Hein, bon. Et quand on regarde Genèse 2, 25, que je connais parce que c'est une de ces formes hébraïques absolument épouvantables qui ne sont pas dans les paradigmes normaux, lorsque l'homme et la femme sont nus et qui sont à côté, eh bien, ils n'avaient pas honte l'un par rapport à l'autre, et c'est cette racine qui est employée, n'est-ce pas, de celle de Bosch. Bon. Quand vous regardez en acadien Bashum, Bashum, c'est avoir honte. En réalité, c'est très employé dans les noms propres, avec le sens de « puissais-je ne pas avoir à regretter ce que j'ai fait ?» Plutôt que la honte, c'est le regret d'avoir fait quelque chose. Et là où ça devient très compliqué, c'est que Bashtoum, lui, le terme qui correspond à Boshet, est entièrement positif en acadien. Et ça signifie, le sens que le dictionnaire de Chicago donne, c'est dignité et orgueil. En réalité, comment exprime-t-on la notion de respect dans les langues sémitiques ? C'est par la racine de palachum à l'est qui signifie craindre et adarum à l'ouest. Et ce que je vous propose, c'est que Bachoum, ça signifie en réalité le respect que l'on a envers soi-même, alors que Palachoum, c'est le respect que l'on a envers les autres. Et tout particulièrement, d'après, quand on regarde les contextes, qu'on les serre un petit peu, Bachoum, ça signifie éprouver un sentiment de honte après avoir fait quelque chose, c'est regretter une action. Donc le Bachoum représente certainement la volonté de ne pas agir d'une certaine action, d'une certaine façon, et les textes sont extrêmement clairs. Voici, je vous donne que la traduction, mais croyez-moi pour l'acadien. « Or, un tel, à cause de toi, mon Seigneur, éprouvera de la honte de ce qu'il m'a fait. » Non pas Bechtoum, donc, c'est le sentiment de ce que l'on se doit de faire, la dignité. Et peut-être que le moyen terme qu'il y a entre un terme hébraïque, qui est le terme du premier millénaire, et le Bechtoum, qui est un terme du deuxième millénaire chez nous et qui est hérité ensuite, on peut le comprendre en français par le terme de respect humain, parce que respect humain, vous avez le terme de respect qui est à l'intérieur, mais le respect humain, c'est quelque chose qui est négatif. C'est ce qui vous empêche d'agir, justement. C'est la honte. Et vous passez du terme de le respect humain ou la honte personnelle que l'on a de manifester en public quelque chose, etc., et vous permettrez de comprendre comment on peut passer de l'un par rapport à l'autre. Alors, il y a une dernière question par laquelle je voudrais terminer, mais c'est une question que je livre pour l'instant aux biblistes, parce qu'ils ont le même problème chez eux que chez nous, et je trouve qu'il y a suffisamment de philologie dans ce que je vous ai fait aujourd'hui pour ne pas entrer dans les détails. De toute façon, je n'en aurai pas le temps. C'est que le terme de Bachoum, avoir honte, et le terme de Bachoum, sentir mauvais, coïncident. Alors, les dictionnaires les distinguent par le fait que l'un est un verbe en « a » et l'autre est un verbe en « i ». Alors, vous me direz où est la différence. En général, on fait attention à des choses de ce genre pour distinguer les termes. Bon. Seulement, si vous regardez le dérivé « bichoum », vous ne pouvez pas savoir s'il vient de l'un ou s'il vient de l'autre, parce qu'il signifie à la fois « puant », et ça vous en est sûr parce que ça, c'est une matière qui peut être « bichoum », ou bien moralement mauvais, parce que c'est une action. Et le bichoum peut venir aussi bien de bachoum que de bachoum pué, et il est vraisemblable que les deux termes ont été distingués, mais sont absolument pareils à l'origine. Et il y a des contextes qui sont à la fois indiscernables. Et le grand avantage de régler cette question, le rapport entre bachoum, sentir mauvais, et bachoum, être quelqu'un de mauvais, c'est que ça nous permettrait de résoudre un thème qui est... Alors, c'est là que les Grecs réapparaissent, n'est-ce pas? Le thème du myroblit, qui est la traduction de myroblit blutos. Je vois que, au soulagement qui vous prend, que c'est une grande question qui va être résolue. Le myroblit, regardez bien l'orthographe, parce que j'ai eu la curiosité de regarder sur Internet et j'ai vu que l'orthographe est absolument scandaleuse, parce que le upsilon est rendu par un i, ce qu'il ne faut pas faire. Le myroblit, vous le connaissez très bien, c'est l'odeur de sainteté. Autant vous dit, en parlant d'un anachorète qui a passé 60 ans de sa vie sans se laver, quand on le met au tombeau, il sentait une odeur absolument suave. Et vous savez qu'il y a des saints qui ont 7 parfums, d'autres qui n'en ont que 6. Sainte Thérèse d'Avila n'avait que 4 parfums autour d'elle, donc c'est peut-être qu'elle était moins sainte que les autres. Enfin, le terme du myroblit est attesté pour la première fois à propos du bienheureux Saint Démétrios. Et je vous dirais que l'odeur de sainteté, l'odeur des santita que l'on a dans la religion chrétienne, est exactement l'inverse du problème que je n'aborde pas avec vous, des rapports qu'il y a entre sentir mauvais et être méchant. Voilà, je vous remercie de votre attention.